Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Pierre Gahungu.
Nous sommes mercredi 21 juin 2023. Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba, Agathe Kakawe. C'est le moment du journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. Trois personnes originaires de la commune Gitelani de la province Muyinga viennent d'écoper d'une peine de 1 à 2 ans de prison. Elles sont accusées par le tribunal de grande instance de Muyinga de vouloir vendre du haricot et du café parche en Tanzanie en violation de la loi. Et puis le secteur de l'éducation n'a pas évolué d'un iota depuis que le président Ndayishimiye a accédé au pouvoir au Burundi, cela fait 3 ans. Le constat est de la ligne Ibizi, qui suit de près les questions en rapport avec l'éducation au Burundi. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, les personnes lésées dans la dernière opération de retrait des anciens billets de 5 et de 10 000 francs burundais peuvent saisir les juridictions compétentes contre l'État du Burundi, selon un analyste en droit des affaires. Il trouve que le gouvernement n'a pas le droit d'obliger les gens à mettre tout leur argent dans les institutions bancaires. Voilà pour le sommaire. À tout de suite.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Parlons justice pour démarrer ce journal. Une peine de prison à perpétuité a été prononcée contre Simplice Niyomukiza par le tribunal de grande instance de Makamba l'après-midi de ce mardi 20 juin. Dans un procès en flagrance, le ministère public l'a accusé d'avoir tué ses deux frères d'armes et de façon préméditée. Ce policier stagiaire qui a comparu sans défense a rejeté en bloc les accusations, arguant qu'il avait lancé les balles par mégarde. L'accusé a interjeté appel auprès de la cour d'appel de Makamba après le procès. Pour rappel, ce policier stagiaire avait tué par balle ses deux collègues le matin de ce dimanche. Toujours dans le domaine de la justice, 3 personnes originaires de la commune Gitelani en province Muyinga, reconnues coupables de sabotage de l'économie nationale ce mardi soir, ont été condamnées par le tribunal de grande instance de Muyinga en procès de flagrance à une peine variant d'une à 2 années. 200 kg de haricots et 240 kg de café parche qu'ils allaient vendre en Tanzanie ont été saisis et seront vendus. L'argent récolté sera mis dans les caisses de l'État. Les précisions avec Karine Doussabé.
Les 3 personnes jugées mardi soir dans un procès de flagrance par le tribunal de grande instance de Muyinga sont Deogratias Ngurikiye de la colline Gasenyi, arrêté avec 160 kg de café parche et 200 kg de haricots, Léonce Manilambona de la colline Mihigo et Dieudonné Mugabe de la colline Bisiga, en commune Gitelani, appréhendés avec 40 kg chacun de café parche. Tous se rendaient en Tanzanie. Tous les 3 étaient poursuivis pour le sabotage de l'économie nationale, selon le parquet de la République à Muyinga. Le tribunal s'est appuyé sur l'article 430 du Code de procédure pénale pour qualifier l'infraction et a condamné Deogratias Murikiye à 2 ans de prison, Dieudonné Mugabe et Léonce Manirambona 1 année chacun. Les 200 kg de haricots et 240 kg de café parche saisis seront vendus et le produit de la vente sera placé dans les caisses de l'État, ajoute la même source.
Merci Karine Doussabé. La famille d'un taxi motard tué par balle par des policiers au mois d'octobre dernier en commune Kayokolo de la province de Makamba continue à réclamer justice. Elle demande que les auteurs du crime soient punis et que la moto saisie par la police soit remise à la famille du motard. Les détails avec Alain Majesté Balenga.
Selon des informations recueillies au sein de la population de la zone de Bigina, nos lieux du drame, la victime connue sous le nom de Savochimike Justin. Un taximoto a été fusillé par des policiers connus sous le nom de François alias Chouabara Ngendakumana Eric. C'était le 18 octobre 2022. Il a été secouru selon les mêmes sources par le chef de zone Bigina et son chef collinaire qui l'ont amené au centre de santé Wungawungu Buzima pour les soins. Le responsable du centre a produit le rapport médical qui a attesté que la victime avait été blessée par balle et a signé le transfert vers l'hôpital de Makamba. Il a succombé de ses blessures en cours de route. L'hôpital de Makamba, selon des sources concordantes, a également produit son rapport médical et des critères de santé convergent sur le fait que la victime a succombé de ses blessures des bas qui lui ont été tirées dessus. Curieusement, à la grande surprise, la police s'est précipitée pour dire que la victime avait cogné un arbre. La famille de la victime demande des poursuites judiciaires contre les 2 policiers présumés auteurs du crime.
Ce qui nous a fort étonné, après l'avoir refusé, ils ont essayé d'intimider la population pour qu'elle ne dise pas la vérité sur ce qui s'est passé. Ce jour-là, la population environnante et les conducteurs de taxis moto avaient assisté à cette scène macabre et étaient très friés. Ni le chef de zone Bigina, ni le chef de colline Bigina, ni l'administrateur de la commune Kayogoro, ni le commissaire régional, personne n'a bougé son petit doigt pour dire la vérité sur ce dossier. Alors, nous avons répondu au procureur qui nous demandait si on avait des preuves à charge. Nous lui avons dit qu'il n'y a pas d'autres preuves plus importantes que le rapport médical qui a été produit par le centre de santé Bungabungu Muzima de Gatwe. Quelle est la valeur que vous accordez à ce rapport? Nous lui avons retorqué. En plus de ça, le jour où nous avons déposé nos plaintes, il a appelé ses policiers pour les demander s'ils avaient la moto avec eux. Ils ont répondu par l'affirmatif. Après l'avoir gardé pendant plus de 8 mois sans la remettre à la famille du défunt. Nous lui avons également demandé pourquoi ce jour-là ils ont amené la moto dans le camp. Jusque là, ils n'ont pas pu donner des raisons qui les ont poussés à garder cette moto. Quelle est l'autre preuve plus importante que cette moto que le défunt avait le jour du crime, mais aujourd'hui qui se trouve dans les mains de la police? En plus, quelle est l'autre preuve plus importante que le rapport médical produit au centre de santé de Gatwe? Les deux éléments suffisent pour arrêter ces policiers et les traduire en justice.
Face à toutes ces lamentations, la rédaction de la radio Nzambagate Kakawe a contacté par téléphone le commissaire provincial de la police à Makamba, tout comme le procureur général de la République à Makamba, pour plus de lumière sur ce dossier, mais sans succès.
Inzamba.
L'actualité de ce mercredi, c'est également la mesure de la BAB consistant à retirer les billets de 5 et de 10 000 francs burundais qui continuent dans certaines microfinances en province Kayanza malgré l'expiration des délais de 10 jours accordés pour le remplacement de ces billets. Nos sources à Kayanza nous disent que cette situation se remarque dans les microfinances situées non loin du chef-lieu de la province Kayanza. Plus de détails avec Josephine Jones, Hunzimana.
La COPEC Utaganzwa est citée parmi les exemples. Même si le délai est pris comme dérogation a expiré samedi de la semaine dernière, les clients n'ont pas encore le droit de retirer plus de 50 000 francs burundais. Écoutez un client de cette microfinance.
Le constat est qu'en commune Utaganzwa de la province Kayanza, la COPEC garde en vigueur la mesure de restriction d'un montant que le défenseur d'un compte à cette microfinance doit retirer. C'est toujours plafonné à 50 000 francs bruts, selon des sources proches de cette microfinance.
Même si les raisons de continuer à appliquer la mesure n'ont pas encore été révélées, des gens pensent que ce serait lié au manque de nouveaux billets, un manque dû aux longues distances séparant certaines communes et le centre urbain de Kayanza. Suivez-le encore une fois.
Là aussi, on peut s'imaginer qu'il s'agit d'un problème de distance, parce que la commune est éloignée, d'un problème d'approvisionnement à nouveau bien. C'est ce que je suppose.
La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a cherché par téléphone Rémi Tishayo, gouverneur de la province Kayanza, pour qu'il s'exprime là-dessus. Son téléphone était hors du périmètre cellulaire.
Dans le même domaine, certains détenteurs des anciens billets de 5 et de 10 000 francs burundais n'ont pas pu déposer toutes leurs économies à la banque, conformément à la demande du gouvernement. Ces personnes lésées peuvent intenter des actions en justice contre l'État du Burundi, selon l'analyse du juriste et expert en droit des affaires. Maître Yves Runyagou indique que la décision de la BRB ne devrait pas sanctionner les Burundais en ordre pour avoir tout simplement gardé leur monnaie dans les coffres-forts à la maison. Suivez-le.
Tout de même, nous entendre sur ce fait que, justement, dès le départ, ce n'est pas criminel de détenir des billets, de l'argent à la maison. En soi, je ne vois pas pourquoi des gens qui auraient acquis leur argent, peut-être par le biais de leur travail, de leur labeur, puissent en être victimes. Donc ça revient à la BRB de rectifier le tir, de considérer toutes ces lamentations et agir en conséquence pour remédier justement à cette situation, soit par l'augmentation des délais, soit par d'autres mesures qui peuvent justement venir réparer ce qui pourrait être considéré comme un tort. Il est possible de saisir les juridictions pour porter plainte contre l'État, surtout lorsque une mesure prise par ses représentants légaux vous porte atteinte. Cependant, il faut considérer que dans un passé d'ailleurs récent, le président de la République, vous vous souvenez sans doute qu'il avait dit que désormais personne ne va plus porter plainte contre l'État au niveau des juridictions. C'est une mesure qui est là depuis qu'il l'a dit. Alors ici, je pense que alors que ça c'est déjà aussi un handicap à l'exercice justement du droit de justement de porter plainte contre l'État. C'est là où je dis que oui, théoriquement c'est possible, mais dans la pratique ça pourrait causer ou susciter d'autres interrogations auxquelles il est difficile pour le moins de répondre. Et c'est là où, au lieu d'emprunter cette voie du contentieux, peut-être je suggère que la Banque centrale puisse agir justement en conséquence pour rectifier le tir, pour réparer tout cela et trouver des solutions à toutes ces grognes-là qui se font entendre ici et là.
Et puis les Burundais de la diaspora jouent un grand rôle dans le développement de notre pays. C'est pour cela que le gouvernement devrait prendre en considération leurs propositions pour le développement. C'est ce qu'a expliqué Gabriel Lufiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, au LICOM en sigle. C'était ce mercredi, lors d'une conférence de presse qu'il a organisée. Il dit avoir rencontré ces Burundais de la diaspora en Europe et en Amérique et qu'ils ont exprimé leur volonté de contribuer au développement. On l'écoute.
Les Burundais de la diaspora veulent à tout prix contribuer. Seulement, il y a un problème. Nous avons déjà observé que certains ambassadeurs, au lieu de considérer tous les Burundais vivant à l'étranger, souvent ils appellent les amis, surtout au niveau du parti au pouvoir, sans exploiter tout le potentiel. Nous pensons qu'avec cette semaine de la diaspora et ces correspondances qu'on a adressées à qui de droit, et les entretiens, les rendez-vous qu'on a eu avec certaines autorités qui gèrent la question, nous pensons que les erreurs du passé ne seront plus se reproduire. Donc, il est vraiment maintenant de préparer cette semaine pour qu'elle soit riche. Je voudrais d'abord citer quelques points en rapport avec les préoccupations de la diaspora. La première chose qu'il nous a expliqué quand on était à Indiana, on nous a dit que le gouvernement doit tout faire pour mettre en exergue l'éducation. L'éducation dans tous les pays du monde doit avoir un accent particulier. On a bien expliqué dans cette correspondance. Le deuxième point qu'ils ont suggéré, c'est la digitalisation. Le troisième point qu'ils ont suggéré, c'est l'agriculture moderne ou mécanisée. Ils ont beaucoup insisté aussi sur le volet gouvernance. Le gouvernance, quand on parle de la gouvernance, c'est au niveau de recrutement, au niveau de la transparence budgétaire. Donc, la gouvernance est vraiment aidée dans tout.
Inzamba.
Dans la suite de ce journal, les problèmes d'insuffisance des salles de classe et du personnel enseignant, du matériel didactique et de bancs pupitres sont restés les défis majeurs dans le secteur de l'éducation aujourd'hui au Burundi, durant les trois années qu'Evariste Ndayishimiye vient de passer à la tête du pays. C'est le constat de la Ligne Vidzi qui suit de près les questions de l'éducation. Eulalie Nibidi interpelle le président Ndayishimiye de mettre en avant un programme de promotion d'une éducation de qualité. Écoutez.
Après trois ans de régime de la présidence du président Ndayishimiye Evariste, dans le secteur de l'éducation, je peux considérer qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution à mentionner, mais il y a des espoirs d'après quelques indicateurs. Et ce qui a pu évoluer, il y a eu les états généraux de l'éducation qui ont été une opportunité d'analyse, de retour sur soi. Ils ont analysé les faiblesses du système et ils ont proposé des solutions. Ça a été une opportunité pour les partenaires, tant au niveau interne qu'au niveau externe, pour contribuer à proposer des remèdes au niveau de l'amélioration du système éducatif. Sinon, quand on analyse les résultats des élèves, on se rend compte que les résultats ne sont pas améliorés, mais cela aussi est dû à certains indicateurs pour l'accès à l'éducation, la construction des infrastructures. Il n'y a pas eu des améliorations, même les écoles qui sont déjà fonctionnelles n'ont pas été améliorées pour en faire des écoles de qualité. Il y a manque criant donc de classes qui font que les effectifs soient trop élevés. Et quand les effectifs sont élevés, la classe classe est difficile à gérer et l'enseignant n'est pas du tout à l'aise et les élèves ne suivent pas bien les cours. Il y a des écoles qui n'ont pas de bancs pupitres, mais aussi il y a un manque de matériel didactique, manque de livres, manque d'autres matériels. Il y a aussi une insuffisance de professeurs et même aussi d'enseignants du primaire, parce que le manque de budget a conduit à un faible recrutement de professeurs. Et quand il y a faible recrutement, il y a surcharge de ceux qui sont en fonction. Et quand l'enseignant est surchargé, il est difficile de donner ses cours comme il faut. Mais aussi pour la formation des enseignants, il a été analysé que le niveau des enseignants est très bas et il y a une formation qui a été organisée depuis l'année 2022. Et cette formation-là, d'après les enseignants, le temps de formation n'est pas du tout suffisant pour combler les lacunes. Et là, c'est quand même un succès que nous pouvons observer qu'il y a un programme de formation des enseignants en cours d'emploi.
Dernier dossier de ce journal, le monde entier célèbre le 21 juin de chaque année la journée de la musique. Au Burundi, les artistes musiciens disent que leur métier n'est pas considéré à sa juste valeur. Omer Zoïsaba, qui évolue dans le domaine de la musique traditionnelle, demande que le Burundi suive le modèle des autres pays qui protègent leurs artistes sur base des lois visant à les promouvoir. Suivez.
Les artistes burundais sont à l'œuvre, ils sont en train de travailler. Mais curieusement, à l'instar d'autres pays, je dirais, qui sont développés, les pays d'Afrique, y compris donc le Burundi en particulier, les artistes n'occupent pas une place considérable dans le développement du pays. Et contrairement aux autres pays, nous savons que le secteur de l'art et de la musique fait des rentrées considérables dans l'économie du pays. Et donc, je pense que cela, dans les conditions du travail de l'artiste burundais, ça commence à créer des frustrations de ceux qui font la musique parce que ils ne sont pas soutenus. Dans le sens que les institutions en charge des artistes ne fonctionnent pas convenablement. Je peux donner l'exemple de l'OBDA. L'OBDA a été établi il y a des années, mais si on voit les résultats ou bien le travail qui est fait par cette institution, on peut dire vraiment que le bilan est négatif. Parce que d'abord, il faut savoir que cette institution est chargée de protéger les artistes en matière de droits d'auteur et tout ce qui va avec et des droits voisins. Je peux dire que les artistes en souffrent énormément parce qu'ils ne sont pas protégés légalement et cela cause des frustrations de la part des artistes. Je voudrais vraiment lancer un appel vibrant au gouvernement burundais pour que, en fait, l'institution qui a été établie puisse travailler effectivement pour le profit des artistes qui font un travail louable, un travail d'ambassadeur, un travail de rayonnement du Burundi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que les artistes soient solidaires pour exercer un contrepoids sur donc les décisions du gouvernement afin qu'ils soient à leur faveur.
Et voilà qui nous amène à la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la radio Inzamba Agathe Kakawe pour sa production. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir et à la prochaine.